mon sang plat tous les jours. Une chanson d'amour.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner. De marches funèbres et de tombeaux en tombe, on oubliera l'humanité. Mozart se lève, me crie par Jupiter, y'a que chez toi que je me sens moins poudré. Le vin pétille dans les yeux de Schubert qui nous fredonne l'inachevé. Ce soir c'est fête, ce soir je m'invite Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud de ma chambre, on va se jouer une petite symphonie. Et sur les notes, on oubliera les femmes qui n'en finissent pas de tourner. De valses en Vienne et des ventailles en drame, on oubliera même leur beauté. Beethoven sourit en pensant à Élise qui ne répondait pas au courrier. Et Rossini m'apprend que Semiramis, c'était la puta du quartier. Ce soir c'est fête, ce soir je suis invité Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer un petit Don Giovanni. Et sur les notes, on oubliera la gloire qui n'en finit pas de tourner. À la roulette des succès illusoires, la gloire micro-sionisée. Rossini gueule, mon barbe de Séville, par Toscanini dirigé. Mais c'est une bombe, mais c'est une torpille, mais c'est une pub, c'est un succès. Soir j'invite Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre au chaud dans ma chambre, on va se jouer un petit quintet en mi. Et sur les notes, on oubliera la mort qui n'en finit pas de tourner. De l'ouverture jusqu'au dernier point d'orgue, on oubliera l'éternité. Demain il y aura Mahler, Brahms et Schumann pour faire plus grande la table. Il y a trop longtemps que la noblesse mélomane se laissait éloigner. Fait ce soir, j'invite Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini. Autour du dernier verre, dans ma chambre, on va se we'll
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, avec Sylvie du groupe Libertaire d'Ivry.
Bonjour tout le monde.
Alors, ça fait pas mal d'émissions qu'on fait ensemble, l'émission L'entonnoir. Un peu plus de 20 peut-être.
Tu veux dire ensemble tous les deux en général?
Oui.
Oh, bah,
plus que ça même.
Beaucoup plus que ça. Ouais. Tu rigoles.
Et il nous est parfois arrivé d'aborder
la question. Combien de semaines dans une année
C'est vrai.
T'as qu'à compter.
Oui. Donc on a abordé plusieurs sujets, donc, et il nous est parfois abordé le sujet de la psychanalyse. Par exemple, quand on a fait une émission sur Françoise Dolto. Au cours de ces émissions aussi, à certaines occasions, on a remis en cause l'efficacité thérapeutique de la psychanalyse.
Bah oui, mais je crois qu'on a évoqué aussi, à plusieurs reprises, je pense, le fait que c'était pas pertinent d'essayer de décrypter la politique avec la grille de la psychanalyse, que c'était quelque chose qui était jusqu'à présent... Je veux bien laisser le bénéfice du doute, mais c'est tout simplement que j'ai jamais vu ça.
Enfin, oui, c'est ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui, c'est
oui,
l'association
voilà.
de la psychanalyse et de la politique.
Voilà.
Et plus exactement, l'association qui a été faite, je dirais dans les années 80, soit peut-être un peu avant, soit les années 70 aussi, et puis plus tard, entre psychanalyse et anarchie.
Oui, et enfin oui, les deux. Enfin, puisque on est sur Radio Libertaire, évidemment, on va s'intéresser principalement, effectivement, au militantisme anarchiste. Mais disons que là, j'avais pensé qu'on était d'accord qu'on pourrait faire vraiment plusieurs émissions parce qu'il y a beaucoup à dire. Et je veux dire, on va commencer par l'artillerie lourde, à savoir quelqu'un qui, malgré tout, est une référence chez les libertaires. Comme psychanalyste, qui se présente comme quelqu'un qui est un modèle de tout ce que tu voudras, de lucidité et tout. Et dans la mesure où c'est vraiment une référence, déjà il a beaucoup écrit dans le monde libertaire, mais il se réclame effectivement de l'anarchisme et ça lui est arrivé à plusieurs reprises. Il a participé à une brochure que j'ai pas lue pour l'instant, qui était justement, je crois, psychanalyse et anarchie. Et c'est quelqu'un qui se la pète énormément, mais si avec ça. Donc c'est un peu l'artillerie lourde de commencer par Roger Dadoun, parce que j'espère que vous êtes bien assis. Je me rappelle comment tu avais été choqué par l'article sur Françoise Dolto qui citait des propos de Françoise Dolto. Là, c'est pas nous qui le disons, c'est un article de Roger Dadoun, ouais. Donc qui date déjà au moins 10 ans, hein, puisque c'était à l'époque de l'affaire DSK. Je me rappelle plus quand est-ce que c'était. Ouais. Où on va dire les choses clairement, il pourrit la victime. Il tient des propos généraux absolument immondes, hein, je spoil un peu, et il défend
la défense,
le violeur. Voilà.
Et ça a paru dans le Monde Libertaire.
Oui, tout à fait. Il écrivait régulièrement dans le Monde Libertaire, de toute façon. Je vous dis, si c'est pas mal, mais encore une fois, malgré tout, faut pas exagérer. Il y a des psychanalystes qui sont peut-être, je sais pas s'ils servent à quelque chose, parce que ça fait toujours du bien de parler à quelqu'un qui vous écoute gentiment. Mais je veux dire, mais en même temps, faut pas exagérer. Et Dadoun n'est pas représentatif quand même de tous, mais c'est une référence. C'est vraiment quasiment la référence du psychanalyste libertaire. Donc c'est quand même pas mal de montrer un peu à qui on a affaire. Et j'aime mieux vous dire que c'est pas légèrement ambigu, c'est carrément dégueu. Donc voilà. Quoi,
alors
je
on va peut-être commencer par faire le CV un peu du personnage.
Oui, voilà. Si tu veux. Ben voilà, si tu veux pas le lire,
oui,
toi.
Oui. Alors Roger Dadoun. Les activités de Roger Dadoun ont été nombreuses.
Sur le site du CIRA que j'ai trouvé ça.
Oui. Il a été traducteur, philosophe, critique d'art, psychanalyste et enseignant à l'université. Né le 1er janvier 1928 à Oran.
Il est mort. Je le dis incidemment.
Il est mort à Paris le 12 juin 2022.
Donc c'est pas la peine de le chercher pour lui mettre une claque. Il est mort.
À notre connaissance, son décès n'a été annoncé nulle part, selon l'article. À l'université d'Alger, puis à la Sorbonne à Paris, il étudie la philosophie, la littérature, la, psychotechnique, la psychologie, l'esthétique et l'ethnologie. Journaliste, il écrit dans diverses revues, Les Lettres Nouvelles, Les Temps Modernes, Nouvelle Revue de Psychanalyse, et d'autres. On pouvait aussi l'écouter sur les ondes de France Culture.
Waouh.
Enseignant, il donne des cours d'analyse filmique à l'université de Vincennes, puis à l'université Paris Diderot. Il est l'auteur de plus de 30 livres au sujet les plus variés. Wilhelm Reich, Sigmund Freud, la violence, l'érotisme, la psychanalyse, Marcel Duchamp, la vieillesse, l'utopie, le cinéma, entre parenthèses King Kong, l'amitié, Paolo Uccello, la télévision, point de suspension. Ses sympathies allaient vers l'anarchisme. Entre 1985 et 2013, il a écrit régulièrement dans Le Monde Libertaire. Il a participé à des rencontres anarchistes. Ses interventions peuvent être lues dans plusieurs livres collectifs parus à l'Atelier de création libertaire, notamment Psychanalyse et anarchie et La culture libertaire. Article de Dadoun prenant. Maintenant, on va peut-être enchaîner tout à l'heure.
Tu n'avais pas une annonce à faire avant qu'on commence, tu m'as dit?
Non.
Non, c'est bon. Ben, disons que par rapport à ce pédigré, je dois dire que ça fait un peu la montagne qui accouche d'une souris pourrie, d'ailleurs. C'est vrai, ça me fait un drôle d'effet, parce que quand tu vois les gens comme ça bardés de diplômes, moi quand on n'est pas des diplômes, ben, tu rigoles, ça m'impressionne quand même, c'est pas n'importe qui. En plus, vous allez voir, il utilise un langage la plupart du temps incompréhensible, ce qui te cloue un peu le bec, parce que vu que t'as pas trop compris, t'es là, est-ce que je suis d'accord, pas d'accord avec un truc que j'ai pas pigé. Mais dans cette bouillie, parce qu'il écrit vraiment comme un cochon, dans cette bouillie, les grumeaux qui surnagent, c'est vraiment dégueulasse, quoi, vraiment dégueulasse. Et en plus, c'est nul, c'est-à-dire que c'est même pas... Enfin, je veux dire, c'est des banalités, mais des banalités pourries, quoi. Pourries, mais banales, en plus. Quand je vois des gens comme ça, qui ont un tel parcours, ça me fait un peu l'effet, tu sais, comme si t'avais quelqu'un qui avait la mallette, tu sais, un menuisier qui aurait la mallette du bricoleur de l'an 3000, tu sais, avec des des trucs, enfin, des outils ultra performants, et puis que tu vois que le résultat, c'est un petit tabouret tout bancal avec des clous qui dépassent dans tous les sens. Ça me fait vraiment cet effet, tu te dis, mais tout ça pour ça, quoi, tu vois. Toutes ces années d'études, tous ces diplômes, avoir écrit dans des trucs, dans des revues prestigieuses, quand même, et tout, pour pondre ça, quoi. Parce que, on peut quand même résumer à l'avance, hein, pour spoiler. Grosso modo, Diallo était une pute. Pour de vrai, on met carrément en doute sa parole, quoi, tu vois. Et puis, elle fait des histoires, même en admettant qu'elle ait été violée, elle fait des histoires pour pas grand-chose. Et son empathie va vraiment au pauvre DSK, qui a été victime d'une véritable hystérie médiatique et populaire. Et les gens qui se sont intéressés à cette histoire, ou à Diallo, quoi, eh bien, la victime, eh bien, c'est tout ça, c'est pour les raisons les plus futiles, bien entendu. Donc, pour dire, parce que je pense que j'ai résumé, non, toi qui l'as lu l'article, j'ai résumé intégralement le propos, le fond du propos, hein.
Oui, c'est un article qui s'appelle Lister, chambre 2806, hôtel Sofitel, New York. Et on va l'écouter juste après une petite pause.
Oui, une petite musique pour se mettre en forme. Respirer profondément.
Alors, on va écouter comment tu m'as traité des gens du 110.
Tu te souviens, Luc, tu te souviens? Tu te souviens, Luc, tu te souviens? Tu m'as traité. Comment tu m'as traité? Comment tu m'as traité?
The way you treat me.
Voilà, c'est fini. Roger Dadoun, Lister, chambre 2806, hôtel Sofitel, article de Dadoun prenant la défense de DSK dans le Monde Libertaire, qui a amené d'ailleurs la rupture entre le Monde Libertaire et Dadoun.
Alors ça, je ne sais pas trop les circonstances d'une rupture, d'une telle rupture. Je peux quand même dire qu'il y avait des gens, il y a eu des gens pour défendre cet article, et d'autres qui ont carrément quitté la FA suite à ça. Ouais, c'est parce que ça a été, c'est quelque chose que, heureusement, il y avait des gens pour trouver ça insupportable. Et il ne faut pas exagérer hein, quand même. Donc, oui, voilà, je précise que je pense qu'il faut s'arrêter quasiment à chaque phrase, parce que chaque phrase est très lourde de sous-entendus, ou même dit carrément des horreurs, quoi.
Alors, du coup, je vais commencer à lire le texte, et tu m'interromps à chaque fois que tu as envie de dire
déjà, même au bout de la première phrase, alors, même toi-même, tu pourras peut-être faire un commentaire. Hein.
Alors, entre guillemets, on ne saura jamais. Je ferme le guillemet. Cette bonne blague. Rien n'est plus concret et plus précis que ce qui s'est passé dans la chambre 2806 de l'hôtel Sofitel de New York. Un acte de fellation consommé entre un client des SK et une femme de chambre, Madame Diallo.
Alors déjà d'entrée de jeu, hein, quand même. Alors déjà cette bonne blague, je ne sais pas, rien que cette première phrase, c'est incroyable, quoi. On ne saura jamais, je veux dire, tu as le droit d'avoir ta conviction et vous allez voir pour la suite. Il a une idée extrêmement, comme il dit, parce qu'il continue en disant cette bonne blague. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je ne sais pas, on peut faire les sous-titres hein, quand même. On ne saura jamais, et puis il dit cette bonne blague. Rien de plus concret et de plus précis. Donc, en fait, on ne saura jamais, mais lui, il sait. Lui, il sait ce qui s'est passé. Bah, on pourrait dire que du point de vue de la justice, puisque finalement, Diallo, en effet, a accepté de retirer sa plainte, du point de vue de la justice peut-être. Après, on va dire qu'on peut avoir quand même son intime conviction. En tout cas, lui, il pense que c'est une blague de prétendre qu'on ne saura jamais. J'invente pas. Oui. C'est ce qu'il dit d'entrée de jeu. Lui, il sait, lui. Rien n'est plus concret et plus précis. Vous verrez que plus tard, il va jusqu'à carrément décrire la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire que lui, il sait. Voilà. Et donc, un acte de fellation. Donc, alors déjà, une fellation et un acte de fellation. Je veux dire, on va dire les choses autrement. Ma conviction à moi, c'est que cette ordure de DSK lui a violé la bouche. Et ça s'appelle pas une fellation. C'est-à-dire qu'un peu plus loin, il dit aussi qu'elle le suce. Et sucer, c'est proactif. Je m'excuse, mais c'est vrai. Et donc, voilà. Et consommer entre un client. Et donc, le fait, peut-être qu'il ne le fait pas exprès, mais il y a un léger sous-entendu de parler de DSK comme client. Je ne sais pas comment
Déjà, d'emblée, j'ai l'impression, et on va le voir un peu à la phrase suivante, c'est qu'ils sont mis d'égal à égal. Comme s'ils étaient...
C'est comme si c'était des partenaires.
Effectivement. Je poursuis. Les deux protagonistes n'ont livré là-dessus que peu de détails. Les deux protagonistes, hein, c'est déjà...
T'as raison, protagoniste.
Suffisant cependant, vu la brièveté et l'économie du geste, pour réaliser, entre guillemets, ce que fut cette rencontre, entre guillemets, ou circonstance, entre guillemets, inattendue, qui appelle la qualification d'incidence, entre guillemets.
Entre guillemets. Comment tu ressens? Parce que tu te dis qu'est-ce qu'il veut dire par là? Incidence, qu'est-ce qu'il entend par là? Mais tu le sens pas très bien, quand même. Incidence, c'est un truc bénin. Comment tu ressens cette deuxième phrase?
Parce que, comme je te le disais, déjà la mise en horizontalité du phénomène.
Les deux protagonistes, oui.
Oui.
Il y a un truc aussi qui va revenir. Il va revenir dessus à plusieurs reprises. Qu'il n'y a pas de quoi faire une tartine parce que c'était bref.
C'était bref et en même temps, déjà ça annonce l'idée que c'est peu de choses. La brièveté, l'économie du geste. Et reprendre les termes réaliser, rencontre et circonstances, comme si c'était quelque chose de tout à fait banal en fait.
Et d'anodin,
oui, anodin, voilà, le plus exact.
Donc
fellation, c'est tout. Ouais, oui. c'est, je sais pas. Fellation incidente à la sauvette. Le client sort en nudité, d'humeur légère, de sa douche, à effet peu ou prou, la douche érotisant. L'employé pénètre à ce même moment, maladresse, erreur, X.
Oui, ça veut dire, ou autre raison. Enfin, ah oui. C'est quoi l'autre raison?
Dans la chambre, donc l'employé.
En tant que pute, quoi.
Pénètre à ce même moment dans la chambre, deux corps, plutôt que deux personnes, se retrouvent face à face. Ici, suspense, laps de temps, X, le seul susceptible d'être qualifié de mystère, noué en version contradictoire, elle vient à lui ou lui à elle. La femme suce le sexe de l'homme, goutte de sperme s'éparpille, les deux corps se séparent, s'éloignent immédiatement.
Et là, par exemple, cette phrase-là, comment tu la ressens dans la continuité en plus.
Voilà, c'est vraiment exprimé comme vraiment quelque chose, là encore, horizontal, quoi, l'amour de deux personnes.
Bah, le fait, il fait semblant, enfin, ça serait un petit peu gros qu'il affirme vraiment clairement, c'est elle qui lui a sauté au paf, enfin, tu vois, s'il avait dit ça carrément.
C'est sous-entendu.
Mais rien que poser la question comme ça, je trouve ça quand même très limite.
Ouais, ouais.
Je sais pas ce que t'en penses. Et en plus, il prétend qu'il sait pas, mais sauf que, en effet, il dit, la femme suce le sexe de l'homme. Sucer, c'est proactif. C'est pas le mec lui saute dessus et lui dit qu'il lui a violé la bouche. C'est pas la même chose.
De toute façon, on le sait, Dadoun prend la défense de DSK dans ce texte.
Voilà, mais en plus, le fait de dire qu'il s'agit de deux corps qui se séparent, t'as raison quand tu dis que c'est les mettre en fait à égalité. C'est pas une victime avec une espèce de gros dégueulasse qui lui saute dessus.
Oui, puis c'est en même temps cette horizontalité, même peut-être cette réciprocité évoquée, c'est l'idée que le désir était égal de chaque côté, quoi.
Ouais, t'as raison. Si elle l'a sucé, elle... Et puis regarde le fait de se poser la question. Elle vient à lui ou c'est lui qui vient à elle? Si ça se trouve, lui, tu sais, il sortait comme ça innocemment de sa douche à poil, quand tout d'un coup, une espèce de nymphomane lui saute aux aubes. C'est horrible, le pauvre. Mais c'est lui qui aurait dû porter plainte. Non, mais franchement...
Alors, l'incidence n'a duré qu'à peine quelques minutes. 12h06 à 12h13, samedi 14 mai 2011, soit, à quelques secondes près, le même temps qu'il aura fallu au juge civil pour articuler sa décision d'un accord financier et de confidentialité entre les deux parties, qui met fin à toute ultérieure investigation ou reconstitution, motion. Motion pulsionnelle fort close et bouche cousue.
Il faut le dire, hein. Il y a des trucs, par contre, je sèche un peu pour même les sous-titres, parce que qu'est-ce qu'il a voulu dire par motion pulsionnelle fort close? Je sais pas trop. Il y a beaucoup de trucs où il est vraiment très confus, hein, vraiment.
Oui, c'est,
mais
c'est...
ça fait une impression quand même, que parce qu'il met, l'accent sur le fait qu'il y a eu un accord financier. Et c'est peut-être moi qui vois le mal, mais j'ai l'impression qu'il sous-entend que le fait qu'elle ait été capable d'accepter un accord financier, c'est qu'elle était capable aussi d'avoir un accord financier avant l'incidence en question. C'est peut-être moi qui vois le mal partout aussi. Hein. Enfin, continue.
L'occultation généralisée de l'incidence, entre guillemets, ce qui s'est réellement passé entre deux personnes réelles, au bénéfice de l'affaire, entre guillemets, brouillage et plaquage de jugement, approximation, mensonge, interprétation, projection, identification, envie, frustration de toutes sortes, est frappante.
Et là, tu t'en penses quoi, franchement, de ce qu'il y a entre parenthèses? Est-ce que c'est moi là aussi qui interprète qu'il essaye quand même de dire qu'il y a eu... les gens ont beaucoup fantasmé sur ce truc, alors qu'en fait, au début, il a dit il y a des gens qui disent on n'en sait rien, mais lui, c'est... Hein. Donc, en effet, quand tu parles de mensonges, je pense pas qu'il veut parler des mensonges de DSK quand il prétend qu'il l'a jamais vu, alors qu'on a trouvé son foutre sur la chemise de sa victime, quoi. Donc, les projections, identification, Si lui doit se projeter dans quelqu'un, j'ai pas l'impression que ce soit la victime. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas ce que tu penses du truc aussi où il imagine, où il est parti dans son, dans son fantasme, où il imagine comme ça que qu'il est sorti d'humeur légère de la douche, mais on sait pas de quelle humeur il est sorti, mais vu ce qu'il a fait. Je veux dire, je vois rien de très léger dans son humeur. Je veux dire, c'est quelque chose. On a quand même relevé des traces de violence sur elle, quoi. Et ça, c'est même s'il prétend, s'il dit c'est comme ça qu'il était avec les prostituées, etc. N'empêche que ça n'a rien de bien de bien primesautier quand même. Comme,
ouais, c'est un peu pour dire que en fait là, ce passage, c'est moi j'ai l'impression que c'est pour dire que juste son sexe était en érection. Voilà. C'est-à-dire, il sort en nudité d'humeur légère de sa douche à effet peu ou prou érotisant. Donc ça veut dire qu'il sort de sa douche...
Il était d'humeur légère.
Oui, enfin, oui, voilà.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en sait que son sexe était en érection
Non, mais
tu vois, mais on saura jamais. Mais
c'est
lui,
une image,
sait.
Quoi. Ouais.
Lui, il sait. Ouais. Il sait ce qui s'est passé. Il a même carrément vu la vidéo. Tu vois, la vidéo que personne n'a vue, lui, il l'a vue. Il sait, lui. Enfin, bon.
Alors...
Que n'aurait-on appris, voilà. Que n'aurait-on appris si l'on avait pu procéder à une reconstitution judiciaire de ce moment clé, qui se distingue comme l'unique temps fort et incontournable de toute l'affaire? Ah oui, il insiste là-dessus. Lui, il aurait voulu une reconstitution. Il est cool, lui, quand même. Est-ce que tu t'imagines ce que ça doit faire à la victime? Il aurait fallu qu'il la viole à nouveau pour qu'on puisse se rendre compte si c'est vraisemblable. Je ne vois pas ce qu'une reconstitution apporterait. C'est d'une bêtise rare. Encore une fois, ce mec bardé de diplôme, il te sort une bêtise, mais grosse comme lui, quoi. Et une absence totale d'empathie. Est-ce qu'il se demande... son truc, en fait, on s'en rend compte dans les phrases suivantes, c'est qu'en fait, une reconstitution aurait démontré qu'elle mentait. Que ce n'était pas possible, qu'il n'aurait pas pu.
Maintenant,
c'est
lui
ça
dit,
qui l'intéresserait.
Lui dit que ce serait dégager jusqu'à la caricature les positions exactes des protagonistes et leur congruente motivation. Regard, parcours et évolution des corps, gestes des mains, jambes et têtes, bouche et paroles éventuelles. Bref, quelque chose comme une lumière rasante à ras de réel sur ce qui là se tient.
Bah, là aussi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Le fait qu'il reparle de protagonistes et il insiste aussi sur le fait que effectivement les deux pour leur congruente, ça veut dire quoi congruente, qui converge, quelque chose comme ça,
je suppose, je ne sais pas trop,
parce que leur motivation, on va parler un peu franchement, les motivations des personnes violées, elles en ont aucune autre que de pas être violée. Enfin, mais il y a pas de motivation. Elle est rentrée dans la chambre pour sa motivation, c'était faire le ménage. D'ailleurs, c'était pas une vraie motivation. Non, elle faisait ça parce qu'il faut bien. Mais elle avait aucune motivation envers DSK. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui est particulièrement unilatéral, c'est bien le viol. Je veux dire, il y a pas de motivation côté victime. Il se fout vraiment de la gueule du monde, ce con. Enfin bon, continue.
Donc, on tiendra compte d'emblée du cadre en dur de l'hôtel.
Non, t'en as sauté déjà. Ce serait dégagé. Oui, non, non, t'as raison. Oui, oui. Oui, voilà, on tiendra compte. Vas-y, continue.
Donc, du cadre en dur de l'hôtel Sofitel et en mou de tous les personnels concernés, hiérarchie allant du directeur à Madame Diallo.
Bon, alors là, déjà, c'est abracadabra. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que toute la hiérarchie allant du directeur à Madame Diallo a à voir avec le fait que tu as un client qui a violé la femme de ménage, franchement. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui est certain du point de vue politique, le discours, c'est que en effet, à la suite, faut le savoir, à la suite de cette affaire sans guillemets, des femmes, beaucoup de femmes de ménage d'hôtel se sont manifestées pour exprimer le fait qu'elles avaient souvent, malheureusement, affaire à des agressions sexuelles. Enfin, plus ou moins graves, hein, mais que c'était quand même quelque chose... c'est comme si elles faisaient partie du mobilier et des facilités de... T'as le bar, et puis t'as le mini-bar, et t'as la femme de ménage, quoi. Donc, franchement, d'un point de vue politique, ce que c'est que des barrières de classe, d'ailleurs, à un moment donné, il le nie carrément qu'il puisse y avoir un aspect de ce genre dans cette situation.
La chambre 2806 a livré des traces d'ADN de plusieurs personnes différentes. Un hôtel est un lieu où l'on ne fait que passer. Règne de la passe, entre guillemets, ici exactement nommé.
Bon bah là, on peut, c'est pas dur de faire le sous-titre, c'est même pas ambigu, c'était une passe. Et j'ai pas rêvé, une passe avec ou sans guillemets, c'est ce qui se passe entre une prostituée et son client. Mm-hmm. Donc alors, hôtel de passe, et puis ouais. C'est exactement nommé, ça veut bien dire, c'était une passe, c'est exactement comme ça qu'il faut nommer ce qui s'est passé.
C'est ça, c'est ce qu'il faut, en tout cas c'est ce qu'il faut penser. Ouais.
Voilà.
Faut-il rappeler qu'à l'échelle de la planète, ce sont des torrents de sperme et autres sécrétions que l'hôtellerie envoie dans bidets, lavabos et laveries ? Qu'un certain personnel féminin et masculin en contact charnel, constant, indirect avec le client, ait quelque chose à y voir, il ne saurait en aller autrement.
Oui, ben d'ailleurs, là aussi, franchement, là franchement, c'est aussi immonde hein, quand même. Donc, il y a plusieurs choses dans cette phrase-là. Premièrement, le fait que, à l'échelle de la planète et puis des hôtels en général, quoi, avec tout le foutre qui est déversé partout, c'est rien du tout. Enfin, il place ça dans son contexte. C'est banal, c'est anodin, c'est tellement courant. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête spécialement, d'une part, sur ce truc-là, qui est pas grave, parce que c'est quand même ça aussi un peu son leitmotiv. C'est pas grave, ça a pas duré longtemps, elle était plus ou moins, plutôt même plus que moins consentante.
Et puis là, c'est dans les mœurs, quoi.
Voilà, c'est dans les mœurs, on va pas en faire une tartine, c'est la vie, c'est comme ça.
Il illustre son propos avec un court texte inédit de 1930 de Robert Desnos, qui rapporte quelques scènes égrillardes qui se déroulent dans un palace des environs de la place Vendôme. Paris 1er, livré et vécu par un des garçons d'étage de sa connaissance.
Alors déjà, le fait de parler d'être égrillard, un commentaire que font ce que j'avais vu un petit dessin d'une féministe qui disait ça n'avait rien à voir avec la sexualité, le viol. Et elle disait, quand tu prends un coup de pelle, t'appelles pas ça du jardinage. Mmh. C'est de la violence, c'est tout. Et lui, il revient toujours à ça, c'est l'érotisme, l'humeur légère, les scènes égrillardes, et là il vient de parler des passes, bon d'accord, mais il y a aussi cette idée de, quand il dit aussi qu'un certain personnel féminin et masculin en contact charnel constant, indirect avec le client, quelque chose à y voir, il ne saurait en aller autrement. Il écrit pas clairement, donc des fois on se dit j'ai dû mal comprendre, mais en fait il est en train de quand même de dire que le personnel des hôtels est complètement, comme tu dis, quoi, tout à fait actif dans ces situations-là, que c'est qu'ils sont en contact
sexuel.
Dès que
tu vois arriver les clients, c'est « Ah, chouette, un client !»«
Chouette, un client, je vais pouvoir sucer !» Enfin, bref. mais voilà, donc c'est quand même... encore une fois, on pourrait se dire « C'est pas clair, alors peut-être il aura le bénéfice du doute. » Mais quand tu vois ça, les phrases qui se succèdent et qui vont toutes dans ce sens, avec des mots qui sont pas choisis de façon anodine. Enfin, c'est pas un mec qui... C'est vrai qu'il écrit mal, mais il sait quand même maîtriser le langage. C'est... Voilà, quoi. Je veux dire, faut pas exagérer, quoi. C'est pas un mec analphabète. En théorie, il a écrit des tonnes de pages et de pages, et pour en arriver à des trucs... où tu comprends comme... Enfin, je pense pas surinterpréter, et ni toi non plus, en disant, il essaye de faire, de faire croire que c'était des partenaires, finalement. Hein.
L'acte de fellation, chambre 2806, associe deux personnes.
Ah bah voilà, on en revient toujours à ça, ça associe deux personnes. L'acte de fellation. Ils sont associés sur ce coup-là.
Oui. L'accent a été mis quasi unanimement sur leur statut social. Un homme parmi les puissants du jour, riche, quasi invulnérable, et s'appréciant...
Entre guillemets.
Et s'appréciant tel, se voit confronté à une faible femme,
faible entre guillemets,
peut-être illettrée, taillable et corvéable à merci. Cette spectaculaire opposition a retenu la curiosité publique. Manifestation à l'appui.
Oui, alors là, bon, déjà, parce qu'après, il insiste un peu sur ce truc-là, parce que, je vous spoil, lui, il ne voit pas du tout les choses comme ça. C'est un mec, il a un point de vue beaucoup plus subtil que ça. Or, c'est bête à dire, mais en effet, même si on sait que c'est arrivé qu'il s'en prenne à une jeune fille de la bourgeoisie, Tristan Bannon, on l'a su par la suite. Bon, malgré tout, c'était aussi, même si elle faisait partie du sérail dont il faisait partie lui-même, c'était une jeune fille. Donc, malgré tout, il y avait des gens qui avaient peur que s'il était devenu président, on aurait vu la reine d'Angleterre ressortir d'une entrevue avec lui avec le chapeau de travers. Je pense qu'il se serait quand même abstenu dans un cas comme ça. Évidemment qu'il y a quand même un aspect... Il y a quand même un aspect tout à fait social, évidemment. De toute façon, oui, oui. Je crois qu'à un moment donné, il demande qu'est-ce qu'elle foutait dans la chambre. Bah, passer l'aspirateur. Hein. Elle n'aurait pas été dans sa chambre si ça n'avait pas été pour passer l'aspirateur. Et c'est pas quelque chose qu'elle faisait volontairement non plus, oui. D'ailleurs. Oui, oui. Mais tu vois, le fait de mettre entre guillemets invulnérable d'un côté, et t'as raison, là aussi, il y a une espèce de répondant, comme ça, d'équivalence, une faible. Pourquoi mettre une faible femme? Bah, il le dit un peu plus haut, elle aurait pu se défendre. Tu vois, c'est original, ça aussi, fallait y penser. T'avais qu'à te défendre. Enfin, ouais.
Donc, non, ce n'est pas du mépris de classe.
Ah oui, puis attends, tu vois, chaque mot, parce qu'en fait, c'est tellement lourd de sous-entendus qu'on les voit pas tous. Mais quand il dit « Cette opposition a retenu la curiosité publique
». Eh oui.
Si t'as réagi à cette histoire, c'était par curiosité.
C'est ça, oui. Non, mais oui.
C'était là.
La masse n'est que curieuse.
Ben ouais.
Manifestation à l'appui. Or, dans le bref moment X du déroulé de l'acte, ce sont avant tout deux structures caractérielles dans leur projection corporelle qui sont en présence et se jaugent.
Ah oui, après il va préciser, mais effectivement, ben, on en vient à ce que je disais au début. Soit dit en passant, il a fait d'autres interprétations psychanalytiques auxquelles j'avais répondu dans Monde Libertaire d'ailleurs, sur les explications du racisme par exemple, qui n'étaient pas piquées des hannetons non plus, hein, faut le dire. Mais je veux dire, le fait, encore une fois, d'essayer d'appliquer la grille. Parce que lui, finalement, qu'est-ce qu'il fait dans cette phrase par rapport à ce que je disais tout à l'heure? Excuse-moi, mais je pense que la grille de sociale et politique, enfin sur l'idée de la classe sociale à laquelle chacun des deux appartient, même le fait de dire bah il y en a effectivement, enfin c'est quand même un truc que c'était pas rien. Je veux dire pour le fait qu'elle était en état de sidération, elle est quand même pour de vrai socialement rien du tout. Et lui, c'est quand même il est pressenti pour être le futur président en France, et c'était le directeur du FMI. C'est quand même carrément, ils sont à l'opposé. Mais non, ça c'est pas de son ressort à lui, c'est pas sa grille. Donc c'est pas intéressant ça, le côté social, tu vois. En revanche, il va t'expliquer que ce sont avant tout des structures caractérielles. Mmh. Et dans leur projection corporelle, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, le fait est que c'est une question de caractère. Oui. Donc, autant vous dire qu'il va préciser ça, que si ça s'est passé, eh bien, c'était en raison de leur structure caractérielle. Donc, en effet, la grille d'analyse psychanalytique est avant tout celle qui est pertinente. Mmh. Mais tu sais, les gens comme ça qui n'obéissent qu'à leur curiosité, ils font des interprétations un peu hasardeuses. C'est parce que c'était la femme de ménage et que lui était effectivement très très puissant, qui s'est senti autorisé à se vider en elle comme il se serait vidé dans le lavabo. Hein. On va voir les choses un peu en face. Enfin bon.
Non, ce sont deux structures caractérielles et qui s'opposent radicalement. Recourons ici, avec toutes les réserves d'usage, à la classification de Le Sen, traité de caractérologie 1945. DSK apparaît comme étant du genre dit passionné, émotif, actif, secondaire, EAS, fonceur, impérieux, impatient, surdimensionné, entre guillemets, à conscience étroite, entre guillemets, et avidité libidinale. Tout au contraire, Madame Diallo se range aisément dans la catégorie dite apathique, non émotive, non active secondaire, N-E-N-A-S, caractère passif, à conscience large, entre guillemets, et mollesse libidinale, se pliant aux ordres et volontés d'autrui, facile à exploiter, manipuler, séduire, abuser. Il faut voir comme son avocat la pilote, la commande, la traite. Il est du type contraire, sanguin, entre guillemets, non émotif actif primaire, caractérisé par une certaine voracité et la minceur des scrupules.
Oui, donc, on a déjà, bon, après, il insiste un peu sur cette grille dont il a l'air très très content. Mais je veux dire, là aussi, on peut reprendre dès le début pour dire, déjà rien que le principe de mettre les gens dans des catégories comme ça est plus que discutable. Mais ils aiment bien ça, hein, souvent, les psys. Te coller dans une catégorie. Mmh. Encore pire que les astrologues, et puis à peu près aussi pertinent du point de vue scientifique. Donc, en effet, comme tu as dit tout à l'heure, en effet, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a deux protagonistes. Mais déjà, le fait que lui, tu vois, il est impérieux, impatient. Ça va bien avec ce que dit souvent des gros machos, hein, voyons les choses clairement, comme lui, voit sur les violeurs. Enfin, les mecs qui bousculent un petit peu leur partenaire, hein, on va dire. Ils sont impérieux, impatients, etc. Il est avide, il a une grosse libido, tu vois. Et puis alors, elle, il déclare qu'elle est pas émotive. Ça, Coco, t'en sais rien. Moi, j'ai eu l'impression que si elle a porté plainte, c'est qu'elle avait ressenti une certaine émotion, quand même, à l'idée d'être violée. Et en plus, le truc, c'est que... t'es violée, c'est que t'as un caractère passif. Mais quand il dit qu'elle a pas de libido, parce que une mollesse libidinale. Alors voilà, quand une femme est pas enchantée, mais carrément quand elle inonde pas le parquet de sa cyprine à l'idée qu'un gros dégueulasse lui saute dessus pendant qu'elle passe aspirateur, c'est qu'elle a une mollesse libidinale. Obligatoirement, c'est vrai, quoi. Tu devrais être prête à bondir dans toutes les circonstances. C'est vraiment ça. Non, mais tu te rends compte de ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il en sait? C'est peut-être la cochonne du coin avec son mec. T'en sais rien. Il juge sur cette situation-là. Il juge que c'est pas une chaudasse, quoi. Enfin, parce que tout son vocabulaire un peu, enfin, plus que élaboré, qui en plus se réfère à une classification dont personne n'a jamais entendu parler, c'est quand même destiné à montrer que quand même il sait de quoi qu'il cause, quoi. Mais franchement, qu'est-ce que t'en sais de qu'elle a une mollesse libidinale? C'est incroyable, ça, de catégoriser les gens de cette manière et sur un truc comme ça. Enfin, elle a quand même porté plainte, c'est que ça lui a pas plu plus que ça, de toute manière, tu vois. Et c'est incroyable. Enfin, je trouve ça, au-delà de son vocabulaire alambiqué, tu dis ce qu'il est en train de dire, c'est que, ouais, voilà, c'est pas une chaudasse. Hein. T'as des mecs qui sont comme ça, qui te disent, oh, il y a des filles, oh, c'est des planches au lit. Tu pourrais te demander si tu y es pas pour quelque chose. Bah, par exemple, si tu la violes, oui, c'est sûr qu'elle risque de faire, dans le meilleur des cas, l'étoile de mer. Hein. Mais bon, je veux dire, là, dans ce cas-là, elle, comment ça, mollesse libidinale? Je suis super choquée par l'idée de diagnostiquer une victime de viol de cette manière. Enfin, je sais pas, comment tu l'as ressenti, le fait d'aller te sortir des catégories comme ça, pour catégoriser les gens? C'est complètement... c'est aberrant, quand même. Bah, quant à l'avocat, bah, évidemment que l'avocat, il pilote son client. Bah, c'est pas... Enfin, je vois pas en quoi ça... Enfin, c'est un petit peu la fonction de l'avocat. Si tu vois un avocat qui va être un peu hésitant, il me semble que... Je suis pas sûre, hein, surtout, le prenez pas mal, mais bon. Et qu'est-ce qu'il en sait de... Enfin, voilà. Et puis, il faut qu'il... Il faut qu'il catégorise les gens, voilà.
Ouais, puis il faut qu'elle ait, ce que je veux, c'est qu'il faut, en fait, c'est une personne, la victime est une personne qui ne pense pas, qui ne sait pas réfléchir, elle a besoin des autres pour
ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Et puis elle, d'ailleurs, suivi la suite, il insiste.
Elle est manipulée par son avocat.
C'est pas par hasard qu'elle a été que lui est arrivé ça.
C'est sûr, le type apathique, entre guillemets, que s'exercent le plus souvent les abus d'autorité et délits d'influence.
Alors déjà, ça veut dire que, même si c'est un peu du bout des lèvres, il reconnaît possible, éventuel, qu'il y ait pu avoir un délit d'influence et un abus d'autorité. Oui. Mais c'est le bout du monde pour
mais
lui.
Mais en même temps, c'est quelque chose d'assez naturel, finalement.
Mmh, oui. Bah oui, mais oui, c'est sûr. C'est, ils étaient faits pour se... pour se rencontrer.
Voilà, pour, ouais. Pour se compléter. En
voilà,
fait.
T'as raison.
Caractérologiquement parlant, le fameux caractère, DSK n'aurait pas eu besoin d'en venir aux mains, comme le prétend l'accusation d'agression sexuelle, entre guillemets, l'unique délit dont il eut à répondre, pour obtenir de Madame Diallo un consentement qui correspondrait plutôt à une forme quasi socio-professionnelle de soumission. Spontané ou commandité?
Bon, alors là, c'est pas mal non plus, quoi. Donc, parce que là, il va un petit peu aussi développer l'idée qu'elle aurait pu se défendre, vu qu'elle était costaud. Voilà. Mmh. Donc il dit « le prétend l'accusation d'agression sexuelle ». Il va sans dire qu'il sait ce qu'il fait quand il utilise le mot « prétendre ». Hein. Ouais. L'accusation prétend que, voilà, l'unique délit dont il lui a répondu « oh, écoute, oh, là, 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 l'agression sexuelle, oh là là », pour obtenir Madame Diallo un consentement qui correspondrait plutôt à une forme, oui, effectivement, c'est une forme quasi socio-professionnelle de soumission. Et spontanée ou commanditée, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les gens... Parce que ça aussi, il le développe. Si elle est femme de ménage, c'est à cause de son caractère. Et si lui... il a réussi à atteindre le sommet, c'est aussi en fonction de son caractère. Leurs origines sociales à l'un et à l'autre, parce que elle, je le rappelle quand même, c'était quand même une femme qui à l'origine était sans papier, et qui en effet sort pas de la cuisse du tout à Jupiter pour se retrouver dans cette situation de faire le ménage dans les hôtels, quoi. Donc c'est une question de caractère. Mais ça c'est un truc que je pense que pense facilement des gens, parce que lui, bien sûr, je veux dire, c'est quelqu'un qui vient pas de n'importe où non plus. Enfin, t'as vu un peu qu'est-ce que c'est son pédigré. Et il pense qu'il mérite il mérite leur privilège, en fait. Et ceux qui, en revanche, se retrouvent en bas de l'échelle, comme Diallo, bah, l'ont pas volé non plus. Ils méritaient pas mieux. Enfin, moi, je le ressens aussi un peu comme ça, tout ça. Non?
Oui, oui, oui. Voilà. un petit commentaire sur soumission spontanée ou commandité. Il s'agit bien sûr de rappeler que c'est peut-être aussi une passe commanditée.
Ah
passe,
ouais, t'as
passe,
raison.
Alors que spontanée, ça viendrait juste de sa personne. Il suffit en effet d'un moment de surprise éruptif,
c'est
pressant,
surprenant, ça doit être surprenant, quand même.
Quasi mécanique, pour qu'un passage à l'acte...
Ah, tu vois, surprise éruptif, pressant, quasi mécanique, oui.
Pour qu'un passage à l'acte, un acting out, advienne. Le client aurait-il eu recours, par-delà la dimension caractérielle, à une agression caractérisée? Madame Diallo était... en mesure d'y résister et de la repousser par sa seule et opaque présence physique? A-t-on évalué son poids?
Tu te rends compte quand même.
Femme forte et placide, habituée aux travaux de force. Une bonne esclave, quoi, en fait. Mm. Face à un homme massif, certes, quel poids?
C'est-à-dire, il faudrait comparer les poids des deux, tu vois. Mais dans la constitution, on aurait pu les faire monter aussi sur la balance.
Sur un ring. Mais encombré et de sa nudité, la chambre de 1806 n'est pas le jardin d'Éden, et de sa précipitation même, qu'imposait un lieu à risque.
Qu'imposait surtout qu'il était vachement pressé de se vider les couilles, hein, quand même. Excuse-moi d'être un peu trivial.
En pareille occurrence, seule une reconstitution bien ordonnée aurait permis d'apprécier la vraisemblance et l'adéquation des versions et vécu, entre guillemets, des deux sujets.
Ouais, bah là, il y a quand même... ça aussi, c'est un truc très banal. Je veux dire, Barney Gamble, complètement bourré, peut te la sortir. C'est quand même le truc qui se dit souvent aussi qu'en effet, elle aurait pu se défendre quand même. Elle aurait pu se défendre, vu que... est-ce que tu t'es vraiment défendu, tu vois? Et le fait qu'elle était effectivement pas frêle, si tu veux, quand tu enlèves de l'équation la dimension, en effet, à la fois de surprise, parce que, excuse-moi, il y en a un, l'agresseur, il a quand même un avantage. Je veux dire, elle est en train de faire le ménage, et tout d'un coup, t'as un mec qui lui saute dessus, quoi. Et en effet, rien que l'effet de surprise est quelque chose qui va pas être à son avantage. Mais ensuite, le fait que lui c'est un client richissime et puissant, et que elle a quand même, en effet, de par sa fonction, c'est pas quelqu'un qui doit être habitué à pouvoir répondre aux agressions, même ne serait-ce que, si tu veux, je sais pas, le mépris, etc. Enfin, il est évident qu'ils sont pas à égalité de ce point de vue-là. Mais enfin, le fait d'être pris par surprise, enfin le fait de dire vous auriez pu vous défendre, c'est quand même très banal aussi de dire ça. Je veux dire, c'est une honte de dire t'aurais pu te défendre quand même. C'est, enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment tellement monstrueux. Et je vois pas en quoi une reconstitution bien ordonnée aurait permis d'apprécier la vraisemblance et l'adéquation. Je veux dire, tu te dis comment tu peux reconstituer l'effet de surprise que tu peux avoir. Enfin, je veux dire, lui, il a aucune idée hein, de ce que ça peut faire que d'être victime d'une agression. C'est pas forcément seulement le poids qui rentre en ligne de compte, quoi. Enfin, bon. Non, t'es pas choqué de cette mise en doute sur la base du fait qu'elle aurait pu se défendre parce qu'elle était costaud ?
Ah oui, complètement.
Ouais, quand même.
Alors, la mécanique caractérologique. Là, on invoque le caractère, est invoqué en fait l'analyse caractérielle de Wilhelm Reich à travers cette mécanique caractérologique.
Ah, je connais pas.
Oui. La mécanique caractérologique, squelette de facteurs élémentaires, reçoit consistance des viscosités libidinales et tissus sociaux qui l'enveloppent.
Alors là, franchement, non, mais reconnais quand même qu'il n'écrit pas bien. C'est-à-dire, tu es là, tu te dis, tu as une vague impression de ce qu'il a voulu dire, mais franchement, il ne sait pas s'exprimer, le pauvre homme.
Ouais,
enfin, il savait pas.
On peut même penser que ça s'est fait un peu pour noyer le poisson.
Oui, mais c'est peut-être aussi que son cerveau est un peu noyé aussi, c'est pas impossible.
C'est pourquoi il convient de se tourner, en l'occurrence, vers une modalité psychologique aussi originale qu'apparemment ringarde, celle qui fut l'origine de la psychanalyse, étude sur l'hystérie de Freud et Breuer, 1895, et qui, depuis plus ou moins banalisée et tombée en désuétude, tend de plus en plus, du fait notamment des frénétiques pressions médiatiques, à occuper une place privilégiée dans l'analyse tant individuelle que collective, l'hystérie. Freud avait souligné, contre la dogmatique médicale, qu'elle concerne autant les hommes que les femmes. Nous dirions aujourd'hui, au vu de l'évolution sociale, plus les hommes que les femmes. L'hystérisation des réactions, discours et comportements est patente. Comment, pour rester au plus près au ras des expressions, ne pas prendre en compte ces brèves et moléculaires notions, motions hystériques, mimiques, gestuelles, lapsus, dérapages, petites phrases, mensonges, éclats, tons, déni, etc. dont nous sommes tous les cibles, patients et agents quotidiens, et qui sont comme les précipités portés à terme ou avortés d'une libido flottante, nomade, sursollicitée.
C'est quand même un peu de la bouillie, mais en même temps, on a aussi, là aussi, une vague impression de ce qu'il veut dire. Déjà, rien que le fait, tu parlais de mettre à plat les deux prétendus partenaires, oui. Mais le côté, on en est tous là, parle pour toi, Coco. Je pense qu'il y a beaucoup de... comme je pense pas que... même si je pense qu'il y a beaucoup trop... que les violeurs sont quasiment, sauf exception, des hommes, et qu'il y en a beaucoup trop, je pense pas que tous les hommes sont des violeurs, même potentiels. Donc, je pense pas que tous les psys, ni même tous les hommes, soient aussi pourris que cette ordure. Enfin, je veux dire... mais le côté, oh, ah, bah, quoi, on va pas lui en faire... C'est ça aussi. On va pas lui en faire un fromage. Qui n'a ses petits défauts? T'es pur, toi? Tu vois, c'est quand même... Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il veut exprimer aussi. Et s'il doit dénoncer quelque chose, c'est les médias, effectivement. D'ailleurs, il y revient un peu plus tard. Et puis, effectivement, qu'on en fait toute une histoire de... Tu fais des petits... T'as des petits défauts, quoi. Et tu peux avoir des petites pulsions. Moi, je vois un peu en filigrane l'idée que ça peut arriver à tout le monde de violer la femme de ménage. Enfin, pourquoi pas. Enfin, puis ça dure pas longtemps. Et puis c'est une petite occurrence, quoi. C'est pas, ça t'a pris par, lui, ça l'a pris par surprise. Et puis ça n'a pas duré longtemps, etc. Non? Comment tu le ressens? Parce que comme c'est pas clair, on est quand même, j'ai aussi l'impression qu'il y a un discours à la Zemmour. surtout avec cette histoire d'Hystère, comme quoi, la masculinité, dans ce qu'elle, même la sexualité masculine, elle est attaquée. Si tu veux, de nos jours, il y a quelque chose, une libido flottante, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y aurait quelque chose de...
Bah, la libido flottante, oui.
Tu vois ce que je veux dire? Nomade, sursollicité... Ouais.
Alors, ces motions, brèves et moléculaires, motions hystériques, bouffées asthmatiques d'énergie libidinale, aussi imprévisibles et passagères qu'ordinaires et omniprésentes, peuvent être nommées pour préserver une continuité psychique, anthropologique et lexicale, hystère.
Ouais, bah voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est que il veut dire ça arrive à tout le monde.
Au pluriel.
C'est-à-dire que ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, lui, enfin, s'il avait une femme de ménage, j'aurais lu ça à sa place, j'aurais pas été rassurée, tu vois.
Ouais. C'est vrai. Le mot hystérieux, longtemps utilisé pour désigner un trouble psychique, se manifestant par des comportements déplacés, entre guillemets, généralement sexuels, maintenant passé de mode, peut être repris pour définir des comportements universels caractérisés par les déplacements permanents de la libido sexuelle, flottante ou nomade.
Bon, là aussi, enfin, excuse-moi, c'est pas clair.
Non,
clair,
non, mais...
Mais il y a quand même... Je note des trucs comme comportement universel. Donc, c'est pour dire, ce qui est arrivé à DSK, ça arrive à tout le monde.
Après,
et c'est pas grave.
Oui, oui. Après, là, il y a cette... comment dire, justement, cette espèce d'opération de séduction des libertaires, en disant, bon, bah, c'est l'hystérie... c'est quelque chose de dépassé, on disait que c'était pour les femmes, mais en fait c'est...
Voilà. Ah oui. Et puis bah oui, parce qu'on aurait pu lui reprocher...
voilà, c'est ça. Et que en fait, voilà, maintenant c'est passé de mode, comment dire, ces symptômes de l'hystérie qu'on attribuait aux personnes. Donc ça donne un côté, tiens, on est en progrès, il y a un progrès.
Il y a un progrès, oui, parce qu'il dit, oh ben finalement, ça... Bah oui, mais en même temps, c'est quoi sa motivation? Quand il dit ça peut arriver aux hommes comme aux femmes, d'avoir des réactions hystériques, oui. Ben, c'est pour dire que ce qui est arrivé à DSK et à tous les hommes qui en feraient autant, eh ben, finalement, c'est quelque chose qui est universel.
Ouais,
enfin,
puis là, il parle aussi de l'hystérisation des réactions, discours et comportements par rapport à l'événement. Donc voilà, on est tous hystériques.
Oui, ben oui, mais la phrase suivante, il fait allusion directement à ce qui s'est passé pour DSK et sa victime, quoi.
Oui, alors maintenant, passé, pour écarter les termes hystérie et hystérieux et hystérique, galvaudés et mal définis, on peut désigner ces comportements par le terme hystère, réaction inattendue, brusque, limitée, de courte durée, telle que nous en avons à chaque instant et pour toutes sortes de circonstances. La télévision est un tsunami d'hystère, les rires hystériques. Ou non, les sourires, colère, voix forte, mimique, etc.
Ouais, bah là aussi, c'est une mise à plat. Tu te dis, finalement, oui. Ce qui s'est passé, violer une femme, voilà. C'est pas...
Ça fait partie de...
C'est pareil que les rires préenregistrés dans un sitcom, ou un sourire, une voix forte, une petite mimique et tout. Voilà. Bon, enfin, tout ça, c'est une
tout
façon de banaliser, de toute façon.
Dans le cas des SK, l'hystère est net et clair. Une envie sexuelle brusque, un objet de désir qui semble à sa portée, un passage à l'acte immédiat, conclusion rapide. Il suffit d'ouvrir les yeux et les oreilles et les hystères déferlent.
Ouais, voilà, même chose, ça arrive tout le temps, on fait pas d'histoire.
C'est un phénomène psychosocial généralisé, tel que nous en voyons à la télé, dans les émissions de jeux, de distraction, de sport, de débat.
Bah attends, j'ai pas encore vu dans une émission de débat que tout d'un coup, il y a un des participants qui se précipite sur sa voisine pour la violer. Quand même pendant 7 minutes seulement.
Hein. Ouais, c'est assez ridicule. Ouais. Aussi truffée soit-elle de rumeurs, mensonges, calomnies, haine, manipulation politique et infiltrat idéologique en tout genre, l'affaire, entre guillemets, du Sofitel ne tient donc qu'à un fil, qu'à un unique point de capiton, le simple et fugitif hystère de l'homme des SKK, c'est-à-dire une espèce de frasque libidinale brusque qui s'empare du sujet et s'engouffre dans la voie rêvée, prenant soudain corps d'une gratification immédiate et rapide, et qui aurait dû à peine profiler s'évanouit.
Oui, c'est vrai, ça aurait été bien. Comme si ça ne fait pas de différence, en effet, si jamais ça lui était seulement passé par la tête, ben, ça aurait été un avantage pour sa victime, quand même. Hein. Mais mais ça arrive à tout le monde, ben, c'est quand même, il insiste quand même encore là-dessus. Il a eu... Puis appeler ça une frasque libidinale, c'est quand même vraiment dégueu, quand même. Une frasque libidinale. C'est-à-dire, un viol, c'est une frasque libidinale. Ça a été beaucoup relevé par les gens qui se sont révoltés suite à l'apparition de cet article, ce terme-là en particulier, appelé un viol de cette manière. Enfin, bon.
L'accablement dont a fait montre DSK dans les premiers moments de l'affaire prend sa source...
Toujours entre guillemets. Hein.
Oui, oui. Prend sa source, probablement, dans l'intuition ravageante de cette hystère qui a subitement pris, entre guillemets. Alors même que le moindre ressac de conscience l'aurait réduite à néant, comme cela nous arrive à tous et à tout moment. Chercher l'hystère, avant que de touiller on ne sait quel ténébreux mystère et autres pompants que l'hystère du sexe. Voilà.
Voilà. Bah, je précise juste, on reviendra là-dessus, mais il avait également avant ça fait un article pour prendre la défense de Polanski.
Ah oui.
Quand, dans l'affaire du viol de la petite fille.
Ça a le mérite d'une certaine cohérence.
Oui, on ne peut pas dire.
Eh bien, voilà, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Et on continuera donc
sur ce thème de psychanalyse et
anarchie.
Et politique. Et anarchie.
Au revoir.
Les enfants sont plus petits que nous. Ils se donnent des coups sur les joues. Puis le vent nous plie en quatre. Et l'on court pour se débattre. C'est beau, c'est vrai, c'est vraiment bien fait la vie. Mais quand soudain ça bat sur moi, sans préambule, etc. Bon, et moi, qu'est-ce que je fais là? Ça vous foudroie, ça vous lapide, ça vous prend comme ça, le grand quoi? Je suis sans vous dans le grand vide, pauvre de moi, rattrapez-moi, j'ai attrapé le grand quoi? Petit agneau donne sa laine, tout comme son huile, la baleine. Puis la nuit nous remplit d'ombre et nous unit malgré le nombre. C'est beau, c'est vraiment bien fait la vie. Mais quand soudain ça bat sur moi, comme le jet d'eau sur le chat. Mais moi, qu'est-ce que je fais là? Ça rend lucide, ça rend stupide, pauvre de moi, j'ai le grand quoi? Besoin de vous dans le grand vide, pauvre de moi, restez par là, j'ai attrapé le grand quoi? Les astres sont bien plus grands que nous. Nous les admirons par en dessous. Nous fabriquons des fusées pour essayer de leur parler. C'est beau, c'est vrai. Mais quand soudain, attraper le grand coin.